Bonsoir à tous. Une allocution télévisée imminente du président russe à Moscou. Vladimir Poutine pourrait dans quelques instants annoncer l'indépendance des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Il doit s'exprimer face à la nation. Nousros à Moscou, décryptage dans ce journal et aussi en Ukraine, dans le Donbass où les combats s'intensifient. À la une aussi en France, le grand oral des candidats à la présidentielle auditionnés par le MEDEF sur leurs programmes économiques. La fonction d'attaché parlementaire de nouveau en question avec les accusations d'emploi fictif à l'encontre du communiste Fabien Roussel. Et puis en fin d'édition, nous reviendrons sur un mot banni depuis 10 ans maintenant, mais finalement toujours bien présent à tous les coins de rue quand Mademoiselle fait de la résistance.
Et au téléphone sonne ce soir à la veille du grand rendez-vous de France Inter. Demain au studio 104, des candidats et des jeunes, 8 candidats pour convaincre les 15-25 ans. À la veille donc de cet événement ce soir, voici l'occasion pour vous qui allez voter pour la première fois d'affûter vos arguments, de nous dire ce que vous attendez de les candidats. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous identifier à un candidat ou si au contraire vous l'avez trouvé, vous l'avez choisi. Allez-y, ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000.
France Inter. Et ce serait la fin du processus de paix entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine pourrait reconnaître d'ici à ce soir l'indépendance des régions séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine. Scénario redouté par le clan occidental, même si le président russe écarterait a priori l'option de l'annexion. Nous y reviendrons dans une poignée de secondes. Mais d'abord, rendons-nous sur place, au sud-est de Donetsk, où les tensions sont déjà très vives et où les combats s'intensifient. Notre reporter Thibault Lefebvre s'est rendu à Novonne-Ativka. Il a lui-même été visé à la nuit tombée par des tirs d'artillerie. Reportage.
Oui, Novonativka, un village entre Donetsk au nord, en zone séparatiste, et Mariupol au sud, en territoire ukrainien. Il est environ 17h. Le jour décline, un magnifique soleil couchant, Hélène, lumière rasante, incandescente. C'est l'heure, et nous le savons, où les échanges de tirs sont les plus violents. Et lors d'une interview d'une habitante, Olga, qui nous racontait justement sur la rue principale que l'intensité des combats avait redoublé ces derniers jours. Olga nous dit alors de nous enfuir, nous rentrons à la hâte dans la voiture. Jérémy Tuil, le technicien, Elena, la traductrice, et Rinat, le chauffeur. Et puis on rebrousse chemin, le pied sur l'accélérateur, nous longeons la ligne de front entre deux feux. À gauche, l'armée ukrainienne, à droite, les combattants séparatistes. Un deuxième obus 200 mètres devant, puis un troisième 50 mètres derrière. Des tirs de plus en plus proches donc, qui nous laissent clairement penser que nous étions ciblés. La provenance de ces tirs, le sud de la ligne de front, donc visiblement du côté de l'armée ukrainienne. Même si évidemment les obus ne sont pas signés et il est très compliqué d'en être complètement certain.
Thibault Lefebvre en direct donc de Novonne-Ativka pour France Inter avec les moyens techniques de Jérémy Tuil. Dans le même temps à Moscou, prise de parole imminente donc de Vladimir Poutine sur l'avenir de ce territoire séparatiste. Avec cet épisode, on semble à mille lieues de l'optimisme de la matinée quant à un futur sommet entre la Russie et les États-Unis. Il est repoussé, sine die. Au contraire même, on semble se rapprocher du point de rupture cet après-midi lors d'un conseil de sécurité. Le chef du Kremlin a semblé donner la tendance. Sylvain Tronchet, vous êtes notre correspondant permanent à Moscou. La Russie donc pourrait s'apprêter à reconnaître les républiques séparatistes du Donbass.
Oui, effectivement, c'est en tout cas ce à quoi tout le monde s'attend ici. Un bandeau annonçant l'intervention de Vladimir Poutine est apparu sur les chaînes d'information en continu et tout le monde s'attend à cette décision de la part du président russe parce que finalement le pouvoir semble avoir préparé tout le monde cet après-midi à cette décision lors d'un conseil de sécurité en direct, mise en scène, là encore à la télévision. Il y avait réuni autour de Vladimir Poutine tout ce que le pouvoir russe compte de personnages importants. Et un à un, tous les membres de ce conseil, qui sont donc des poids lourds, les principaux ministres, les présidents des assemblées, les patrons de l'armée, les services secrets, tous sont venus dire que selon eux, la Russie devait reconnaître les républiques séparatistes du Donbass, que selon eux, il n'y avait plus de place aujourd'hui pour la négociation. Le chef du Kremlin fait donc actuellement durer le suspense, ménage ses effets, alors que ce matin encore, on pensait que la diplomatie avait sa place. Il s'apprête donc probablement à prendre une décision qui serait lourde de conséquences et fermerait définitivement la porte à un règlement pacifique de la situation dans l'est de l'Ukraine.
Sylvain Tronché à Moscou, et à l'instant le Kremlin confirme que Poutine va reconnaître l'indépendance de ces séparatistes pro-russes d'Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky convoque le Conseil de sécurité nationale, et puis ce soir depuis Berlin, on demande un entretien d'urgence entre le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Zelensky et Emmanuel Macron. Dans ce contexte, quelle ambiance côté ukrainien? Les ressortissants vont peut-être suivre le conseil, l'allocution de Vladimir Poutine dans quelques instants devant leur télévision. Ils seront, cela c'est sûr, la boule au ventre. À Kiev, la correspondance d'Éric Bégala.
Vu d'Ukraine, évidemment, la prestation télévisée du Conseil de sécurité russe ne prêtait pas particulièrement à sourire. Nombreux sont ceux qui ont remarqué les hésitations du Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, ou les contradictions dans lesquelles s'enferrait le patron des services de renseignement parlant d'annexion des républiques séparatistes plutôt que de leur reconnaissance. La perspective d'une reconnaissance par la Russie des républiques autoproclamées de Donetsk et Luhansk est en fait une quasi-déclaration de guerre. Tout le monde comprend les conséquences que pourrait avoir une telle démarche, tweetait tout à l'heure le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kuleba. Tout le monde le comprend, mais, ajoutait-il, en ce moment, tout le monde devrait se concentrer froidement sur les efforts de désescalade. Il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir. Le chef de la diplomatie ukrainienne a également demandé que le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisisse d'actions urgentes visant à la fois une désescalade et des garanties de sécurité pour l'Ukraine, et ce au titre du mémorandum de Budapest. Ce dernier document, signé par la Russie en 1994, garantit en effet les frontières de l'Ukraine en échange d'une renonciation par celle-ci à tout armement nucléaire sur son sol. Le problème, c'est que Vladimir Poutine a déjà déchiré le mémorandum de Budapest en annexant la Crimée sans autre forme de procès.
La crise en Ukraine et donc face à la Russie, décryptage à retrouver dans un dossier complet sur franceinter.fr.
Elle est très loin de l'Australie, direction l'Australie qui se reconnecte au reste du monde.
Après près de 2 années reclus sur lui-même à cause du Covid, c'est fait, le pays a rouvert ce lundi ses frontières extérieures. Les touristes peuvent de nouveau pénétrer sur le sol australien, à condition d'être vacciné contre le virus. Alors au pied du célèbre opéra de Sydney, les hordes d'appareils photo et autres perches à selfie se font attendre. Le reportage de notre correspondant en Australie, Grégory Pless.
Le bruit des vagues et le cri des mouettes, depuis bientôt 2 ans, c'est à peu près la seule chose qu'on entend sur l'esplanade de l'opéra. Au grand dam de David, qui à 2 pas de là, gère une boutique vendant des pierres précieuses australiennes. Le retour des touristes, c'est pour lui, comme pour tous les commerçants du quartier, la fin d'une longue traversée du désert.
J'ai l'impression d'être un agriculteur de l'outback après 10 ans de sécheresse, qui voit enfin un nuage arriver et la pluie tomber. Quand le premier vol de touristes va arriver, je vais sortir nu et me mettre à genoux, comme le font les paysans.
De l'autre côté du quai, Mason vient lui d'amarrer son water taxi. S'il se félicite du retour attendu des touristes, il ne croit en revanche pas à un boom.
Les touristes reviendront, mais ça va prendre du temps. Le pays a été longtemps coupé du monde et sa politique sanitaire, les règles de quarantaine par exemple, sont mal connues du public.
Autre frein majeur à la relance de ce secteur qui a rapporté 40 milliards d'euros en 2019, les contraintes de déplacement qui pèsent toujours sur les 2 principaux réservoirs de touristes en Australie, la Chine et la Nouvelle-Zélande. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Au Royaume-Uni, nouveau coup d'accélérateur de Boris Johnson vers la vie post-Covid. Le Premier ministre du Royaume-Uni britannique décrète la fin de l'isolement obligatoire pour les malades. À compter de ce jeudi, les personnes les plus vulnérables pourront par ailleurs recevoir une 4e dose de vaccin. Le Covid en France, c'est l'allègement depuis ce matin du protocole sanitaire dans les écoles de la zone B qui rentrent de vacances. Fin du masque notamment à la cour de récré et aussi de l'attestation sur l'honneur pour les parents après les tests. Et puis on retient aussi cet avis de la Haute Autorité de Santé qui ne recommande pas d'utiliser les tests antigéniques salivaires faute d'efficacité prouvée. Alors que la crise sanitaire continue de peser lourdement sur l'économie française et que nous voterons dans moins de 2 mois maintenant pour élire une ou un chef d'État, le programme économique de 6 candidats à la présidentielle passé au crible. Les principaux prétendants à l'Élysée étaient convoqués ce matin devant les patrons du MEDEF pour préciser la politique qu'ils envisagent à destination des entreprises. Tour à tour, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Éric Zemmour et Valérie Pécresse ont donc pris la parole et dévoilé leur carte face à l'organisation patronale. Kathleen Comte, bonsoir.
Bonsoir.
Et les candidats ont tous eu une demi-heure pour parler économie aux quelques 200 chefs d'entreprise présents. Alors, qu'en ont-ils pensé?
Eh bien, certains sont ressortis surpris. C'est le cas de Sylvain Appert, président territorial du MEDEF en Maine-et-Loire. Il soutient Valérie Pécresse et pourtant ce n'est pas elle qui l'a séduit ce matin.
J'ai été très très impressionné par Marine Le Pen et Anne Hidalgo, alors que j'étais vraiment pas dans cet esprit-là. On a des discours qui sont constants, qui sont pas écrits. C'est les deux seuls pour moi qui ont été capables ce matin.
Avec une petite préférence pour la candidate d'extrême droite.
Sincèrement, ce matin, c'est le discours le plus favorable pour mon entreprise.
Marine Le Pen, comme tous les autres candidats de droite présents ce matin, s'est dit favorable à la baisse des impôts de production. Une bonne nouvelle pour Olivier Beaugilot, président de Sanofi France.
Les impôts de production, ce sont des impôts qui se déclenchent avant même que les entreprises aient créé de la valeur. Donc je suis très heureux que la plupart des candidats s'alignent maintenant pour continuer à la baisse des impôts de production.
Le chef d'entreprise salue également un débat qu'il qualifie de démocratique.
Chacun est venu avec ses propres convictions, y compris des candidats qui ne sont pas forcément les plus crédibles à nos yeux, chefs d'entreprise. Fabien Roussel est venu avec un programme qui n'est quand même pas très en ligne avec ce qu'on peut attendre quand on est chef d'entreprise. Mais bon, chacun peut le faire avec la même règle que les autres. C'est un bel exercice démocratique.
Un exercice très attendu par Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF.
Ça y est, les vrais sujets de l'économie française et de l'économie des entreprises françaises ont été pris en compte. C'était important qu'on puisse susciter ce discours économique parce que jusqu'ici, on l'entendait pas beaucoup.
Toutefois, pas de proposition révolutionnaire pour la chef d'entreprise qui regrette, et elle n'est pas la seule, que les candidats n'aient pas plus parlé de formation professionnelle.
Kathleen Comte pour le service économie de France Inter. Merci à vous. La campagne présidentielle qui bat son plein, alors même que certains candidats n'ont toujours pas les 500 fameux parrainages nécessaires pour représenter dans les clans Mélenchon, Zemmour et Le Pen, notamment, on occupe le terrain à coups de téléphone pour décrocher les signatures manquantes d'ici au 4 mars. Le Conseil constitutionnel doit publier demain un nouveau décompte pour chaque candidat. Lui a déjà son demi-millier de parrainages, mais le voilà rattrapé par les affaires. Fabien Roussel, soupçonné d'emploi fictif après les révélations du journal en ligne Mediapart. Le candidat communiste est accusé d'avoir été payé entre 2009 et 2014 comme assistant parlementaire sans avoir réellement travaillé, ce qu'il dément, assurant même avoir les documents pour le prouver. En toile de fond, on voit ressurgir l'ombre du Penelope Gate, avec, comme il y a 5 ans, un couac autour de ce fameux poste d'assistant parlementaire. Maxence Lambrecq, il n'y a finalement aucune règle pour définir cette fonction?
Non, vous ne trouverez nulle part la fiche de poste typique de l'assistant parlementaire. Elle n'existe pas. Ses collaborateurs sont liés par un contrat de travail de droit privé. Le député est à la tête de son entreprise. Il recrute, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire. Il est le seul décideur. Il a une enveloppe de 10 500 euros par mois et peut embaucher jusqu'à 5 personnes, l'une pour son courrier, l'autre pour sa communication. Un troisième, comme conseiller politique ou représentant sur le terrain, c'est le poste qu'aurait occupé Fabien Roussel auprès du député PC Jean-Jacques Candelier. Et dans ce domaine, il n'est pas toujours évident de fournir des preuves pour un métier de parole, d'influence informelle. Pour l'instant, d'ailleurs, la justice ne s'est pas saisie de cette affaire et les enquêtes ont démarré il y a plusieurs années côté RN, Modem, France Insoumise, au Parlement européen. À quel moment un acteur politique travaille davantage pour son parti que pour son élu? Question extrêmement complexe qu'il y a quelques années n'intéressait personne. Depuis 2017, les noms des assistants parlementaires sont publiés sur le site de l'Assemblée du Sénat et il est interdit d'embaucher conjoints, parents, enfants, mais les règles entourant ce poste n'ont pas changé. Elles restent à la discrétion de l'élu, gage de liberté dans l'exercice de ses fonctions.
Merci Maxence Lambrecq du service politique de France Inter.
La justice se penche sur le cas d'un pilote de ligne suspendu car soupçonné d'être radicalisé.
Oui, à faire juger cet après-midi au tribunal administratif de Montreuil. Cet homme de 35 ans, pilote de ligne de la compagnie Hop, filiale d'Air France, s'est vu retirer son habilitation à circuler dans les zones réservées des aéroports par la préfecture de police de Paris. C'était le 15 octobre dernier, sur la base d'une note blanche des services de renseignement. Cette note le soupçonne d'être proche de la mouvance islamiste radicale. Autrement dit, il ne peut plus voler et il attaque désormais devant le tribunal administratif. Sophie Constanzer, vous avez suivi l'audience. Ce pilote conteste une mise à mort professionnelle.
La gorge serrée, les yeux rougis, le pilote de ligne insiste. Je comprends le principe de précaution, mais là je suis triste que mon nom soit associé au risque terroriste. Ce père de famille est dans le milieu aérien depuis 17 ans, un parcours professionnel exemplaire, souligne son avocat. Mais sans le CMC, ce précieux badge validé chaque année par les autorités, il est littéralement cloué au sol. La note blanche des services de renseignement qui fait une vingtaine de lignes pointe du doigt doit sa pratique, je cite, « rigoriste de l'islam ». Il aurait fait des prières dans le cockpit, selon des témoignages anonymes. Le pilote de ligne, aujourd'hui suspendu, aurait surtout des liens avec un autre pilote soupçonné de radicalisation, un ancien pilote d'Air Algérie avec qui il a travaillé entre 2015 et 2017. Il n'y a rien d'autre dans ce dossier. C'est sidérant, ni lieu, ni date, ni fait, s'emporte l'avocat, qui est venu avec plus d'une trentaine de témoignages de collègues, des pilotes, des commandants de bord, des hôtesses de l'air, qui attestent, eux, du bon comportement de ce pilote de la filiale HOP et qui devait rejoindre les rangs d'Air France en avril prochain. Mais pour le représentant de la préfecture de police de Paris, ça ne suffit pas. La règle, c'est d'éviter le risque.
Sophie Constanzaro au tribunal administratif de Montreuil qui doit donc rendre sa décision d'ici la fin de semaine. Au palais du 6 de Paris, cette fois, le procès des attentats du 13 novembre ne pourra pas reprendre cette semaine comme prévu. Après une première interruption de 7 jours à cause de 2 cas de Covid dans l'accusation, 2 nouveaux accusés ont été testés positifs et vont devoir rester isolés jusqu'à dimanche. Les débats devraient reprendre mardi de la semaine prochaine, le 1er mars. L'accident de chasse dans le Cantal samedi, une femme de 25 ans qui est randonnée tuée par balle. À l'origine du tir, une chasseuse de 17 ans. Elle va être déférée au tribunal demain, annonce le parquet d'Aurillac ce soir. Une autopsie du corps de la victime est par ailleurs programmée demain. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire et l'affaire est confiée à la brigade de recherche d'Aurillac. Sur les déclarations de revenus pour payer vos impôts ou sur les papiers de la CAF pour demander une prestation sociale, une case monsieur à cocher si vous êtes un homme. Une case madame à cocher si vous êtes une femme. 10 ans que le terme mademoiselle a disparu de nos administrations sur décision du gouvernement. Le terme était jugé discriminant car il distinguait les épouses des femmes célibataires et surtout, il obligeait les femmes à signaler leur statut marital quand rien n'était demandé aux hommes. 10 ans donc que la paperasse a pris le pli, mais dans les mots de la vie de tous les jours, les mademoiselles font de la résistance. C'est ce que vous avez constaté, Anna Bonnemazou-Carrère, dans le 15e arrondissement de Paris. Précisément rue Mademoiselle.
Bonjour Mademoiselle.
C'est comme ça que Julia et Marie-Hélène, fromagères à Paris, accueillent leurs clientes.
Quand je vois une jeune femme qui entre dans la boutique, je me permets de lui dire Mademoiselle parce que je trouve que c'est sympa.
Une formule que Maëlys, fleuriste de l'autre côté de la rue, a choisi de ne plus utiliser.
On dit en grande majorité Madame par réflexe en fait, tout simplement.
On le voit des fois, il y a des gens qui nous reprennent...
Depuis 2019, il n'y a plus de mademoiselle, la case a disparu des formulaires administratifs. Pour Hélène, employée à la mairie de Saint-Jean-de-Mont, c'est pour une bonne raison.
Lorsque vous adressez dans un formulaire administratif, vous mettez monsieur, vous ne pouvez pas savoir si la personne est célibataire ou mariée. Ben, madame, c'est la même chose. Donc c'est une équité, alors que mademoiselle, on peut supposer qu'elle n'est pas mariée.
À 600 km de là, dans la mairie de Reims, Aurore console encore quelques nostalgiques de ce titre déchu.
On a quelques personnes un peu récalcitrantes, notamment des personnes d'un certain âge qui n'auraient jamais été mariées, mais ça reste anecdotique.
Et puis il y a les actrices comme Jeanne Moreau, mariée 2 fois, mais qui est restée mademoiselle, comme le veut l'usage lorsqu'on est pensionnaire au sein de la Comédie française.
Anna Bonnemazou-Carrère, merci. Et le mademoiselle qui résiste 10 ans après, c'est aussi à lire sur notre site internet franceinter.fr. Un mois après le feuilleton de l'Open d'Australie et son expulsion du pays faute de vaccin anti-Covid, Novak Djokovic lance finalement sa saison au tournoi de tennis de Dubaï. Le joueur serbe affronte en ce moment l'Italien Lorenzo Musetti. Il a remporté les 2 premiers sets. Djoko relancé, mais Djoko peut être bientôt délogé de la première place mondiale. Il pourrait, selon les scénarios ATP, être détrôné la semaine prochaine par le russe Daniil Medvedev. Et puis je vous rappelle l'information principale de ce soir, Vladimir Poutine, le président russe, qui pourrait annoncer d'une minute à l'autre l'indépendance de régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Une mesure qui suscite de vives inquiétudes dans le monde. Elle risquerait de faire empirer la situation dans la zone. Emmanuel Macron a convoqué ce soir un conseil de défense et de sécurité nationale.
Voilà, mais t'as vu qu'on y reviendra très très vite. Hélène Fromanti pour le journal, merci beaucoup. On reste ensemble, nous, dans un tout petit instant, c'est le téléphone sonne avec les jeunes et l'élection à venir. En attendant les candidats, ils ont tous rendez-vous au studio 104 demain. 8 candidats et des jeunes donc dans le studio. En attendant, venez affûter vos arguments au téléphone sonne ce soir au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Élodie Calac, un peu de pluie au nord, voilà pour demain.
Oui, sur les régions du nord jusqu'au Limousin, ce sera vraiment encombré. Il restera quelques averses de neige sur le Jura le matin. On ne sera pas à l'abri de quelques pluies près de la Manche le matin, puis du nord-ouest aux frontières du nord l'après-midi, alors que des éclaircies reviendront sur le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. On aura toujours du vent près de la Manche, jusqu'à 80 km à l'heure attendue.
Et sinon, plus au sud du soleil?
Oui, ce sera agréable, plus ensoleillé. Alors patience tout de même sur le sud-ouest, beaucoup de nuages le matin. Sur le nord des Alpes, prudence, le risque d'avalanche sera encore fort. Il restera quelques averses de neige le matin, mais des éclaircies sont attendues pour l'après-midi. Mistral et Tramontane souffleront encore en Méditerranée jusqu'à 80 km à l'heure. Et pour les températures, alors souvent 2 à 7 degrés le matin, jusqu'à 10 en Méditerranée. Et l'après-midi, 9 degrés à Besançon, 11 au Havre, à Lille, à Strasbourg ou à Bourges, 13 à Paris et à Lyon, 15 degrés à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse. On ira jusqu'à 18 à Montpellier, Toulon et Bastia, Fabienne.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie.